Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Bonjour Madame Gaëlle Kibungu.
Bonjour Dimassi.
Ignace Moupira est acteur de la société civile du Sud Kivu et analyste politique. Bonjour Monsieur Ignace Moupira. Voilà, on me dit qu'il n'est pas encore là. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, think tank basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Bonjour, c'est Eddy Kaba.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous vos auditeurs. C'est un plaisir de venir à cette émission.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Gaëlle Kibungu, journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Ignace Moupira, acteur de la société civile du Sud Kivu, analyste politique, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, think tank, basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Au menu de cette émission, rencontre entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et les corps diplomatiques jeudi à Kinshasa avec un appel pressant à des sanctions contre le Rwanda. Fermeture du bureau de la MONUSCO au Sud Kivu et enfin polémique autour d'un ordre d'émission pléthorique signé par Vital Kamerhe pour une mission au Canada. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du manque des consensus européens sur les noms de l'envoyé spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs. En effet, les ministres européens des Affaires étrangères se sont réunis à Luxembourg lundi 24 juin au sujet de la désignation de l'envoyé spécial chargé de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Les 27 ont été obligés de constater l'impasse car cette nomination dépend de l'attitude à adopter vis-à-vis du Rwanda et c'est une ligne de fracture au sein de l'Union européenne. C'est un diplomate belge qui a été sélectionné, mais ce dernier n'a finalement pas été nommé lundi suite à des pressions rwandaises alors que la nomination était encore censée être confidentielle. En cause des visions opposées au sein de l'Union, il y a d'un côté ceux qui estiment, comme la Belgique, que le Rwanda doit être traité sans indulgence à la suite de son action sur la RDC, et donc le Rwanda doit être traité comme tous les autres partenaires de l'Europe. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent ménager ce pays vu comme une réussite, un miracle africain. Madame Gaëlle Kibungu, que vous inspire cette divergence au sein de l'Union européenne sur la désignation de l'envoyé spécial pour les Grands Lacs?
Je commencerai par m'acquitter d'un devoir, je vais me rattraper, saluer mon co-débatteur qui est déjà en ligne, Guy, ainsi que tous vos auditeurs, je crois que c'est la moindre des politesses. Et ensuite, justement, par rapport à ce sujet, moi, je pense que c'est d'abord une question très sociale. Je sais qu'il y a quelques jours, déjà, il en a été question lors du passage du commissaire de l'Union européenne sur les questions humanitaires, je crois, qui était à Kinshasa. Et on lui a déjà fait un plaidoyer, on lui a adressé cette question parce que c'est une fonction assez stratégique. C'est quelque chose, je crois que le dernier en mission ici, c'était... l'Asiatique depuis janvier 2019, si je ne m'abuse pas, mais après, Il y a comme ce grand vide, alors que les questions sécuritaires sont encore vraiment le point de l'actualité. Et dans cette région-là, ça mérite vraiment d'avoir un envoyé spécial qui suit de très près ces questions. Alors, le manque de consensus, à mon avis, ça démontre clairement qu'il y a un dessous de carte. L'immensité du drame, quand même, exige qu'il y ait des sanctions, exige qu'il y ait une attention particulière par rapport à cette région. Et le fait que les voix soient partagées, qu'il y a encore des acteurs qui veulent ménager le Rwanda, ça prouve qu'il y a vraiment des dessous de carte. Aujourd'hui, le drame est immense. Il y a beaucoup de vies qui sont perdues dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda est clairement coupable. Tout le monde le condamne, tout le monde le sait. Et je ne pense pas qu'il faille encore ménager un criminel de si haute facture. Je trouve ça quand même dommage. Mais ça nous ouvre les yeux sur vraiment cette réalité. Aujourd'hui, on dénonce des multinationales. Il y a des grandes nations qui sont derrière elles et qui soutiennent et qui mettent la main justement dans ces crimes crapuleux à travers l'exploitation de nos mines stratégiques ici en RDC. Et je crois que cette divergence de vue nous fait voir un peu plus, un peu davantage qu'il y a vraiment des dessous de carte. Parce que ça ne s'explique pas que face à un seul drame, face à autant de morts en République démocratique du Congo, certains estiment encore qu'il faille ménager le Rwanda pour raison, pour motif qui soit un miracle. Mais miracle par rapport à quoi? Tout le monde sait aujourd'hui que le Rwanda se développe notamment par rapport à des minerais pris illicitement et au prix du sang. Donc dites-moi, ce miracle aujourd'hui qu'on devrait mettre en avant, je ne le vois pas. Je trouve ça quand même scandaleux. Et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui pour que la RDC poursuive son lobbying, fasse un plaidoyer davantage plus grand au sein de vraiment sur la scène internationale, pour que on arrive à pousser tous les États et notamment le Conseil de sécurité. Je vais en parler tout à l'heure dans mon dossier sur les affaires étrangères, adopter des sanctions pour qu'on arrête de tourner autour du pot.
Merci, Saïdi Kaba. Êtes-vous surpris de cette divergence entre Européens sur le Rwanda?
Non, pas du tout. Honnêtement, je ne suis pas surpris de cette divergence, puisque, comme vous savez, l'Europe avait déjà essayé, il n'y a pas longtemps, de signer un accord avec le Rwanda pour l'acquisition de certains minerais, sachant que ces minerais-là, le Rwanda ne les a pas. Donc, à la suite de la résistance du pouvoir congolais, il y a eu un recul et l'Europe est parue divisée sur la question. Et le fait que l'Europe n'ait pas été capable de désigner un envoyé spécial pour la région des Grands Lacs prouve qu'il y a des agendas cachés, que chaque pays fait son propre agenda, que la posture ou la position de l'Union européenne est difficile encore à construire sur certaines questions. Je n'ai pas été surpris, mais je crois que en conclusion, celui qui perd, c'est l'Europe. L'Europe est le grand perdant de cette incapacité à pouvoir se décider, à pouvoir avoir une position assumée. Et on a vu que certains pays européens ont commencé même à reconnaître la responsabilité du Rwanda, au moins sur la question qui concerne le soutien au M23 et l'implication des forces armées rwandaises dans ce qui se passe autour du M23. Certains pays ont commencé à avoir des voix individuel, mais il aurait fallu qu'il y ait une position commune de l'Europe sur cette question. Moi, je crois qu'il faut toujours défendre le droit international. Si l'Europe veut demain qu'elle soit écoutée au Sahel, dans la Corne de l'Afrique ou ailleurs sur le continent africain et peut-être même dans le monde, il faut qu'elle puisse au moins dire les choses, appeler un chat et puis assumer des positions. Mais le fait de faire de faux semblants comme ça, à mon avis, ne grandit pas l'Europe. Et moi, je trouve que c'est décevant. Ce qui s'est passé a été une grande déception pour tout le monde et a prouvé l'immaturité de l'Europe, puisque l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord dès qu'il y a des pays qui ont des intérêts particuliers et n'arrive pas à devenir une puissance véritablement. Si elle veut rivaliser face à la Chine, face aux États-Unis, il faut qu'elle puisse avoir des positions à elle, des positions qu'elle assume. Vous avez vu la position, par exemple, des États-Unis sur cette question. C'est une position assumée et le secrétaire d'État Blinken avait pointé la responsabilité du Rwanda à Kigali. Il n'est pas allé dans un autre pays, c'est à Kigali même qu'il a pu le dire. Et je crois que lorsqu'on veut être écouté et lorsqu'on veut assumer un statut de puissance importante, il faut être capable de prendre des décisions qui ne sont pas dans la complaisance, qui sont des décisions totalement assumées.
Merci, on prend une petite pause avec attente de Fali Poupa et on revient juste après.
Attente. Oh, tozela, tozela. Bon, tu n'dimi te kozela. Mais tu kote le mawapi. Santa la fe, mama bota joseli wa kwata.
Paza wapi, wapi bango. Baye malo baka ke boli mweza la kate. Komo ye kweli ngalelo e zanini. Nakuta mino mote mawe. La sola na ayuma ba fami babula kana na dala sako yo kertile ba playa dina ngai komia bolingwe di kina dina ya moto ya moto ezola misa ngai ezola na mambo li utena nyoso mena bolingo tate.
Amigo Tieni Tabwanda, Benga General Grad en Kumbu, et du Lubaki, Bobi Masamba, Papa Jerry Makitakana, et Vala Kasongo Mayele Dinacheti.
C'était Attente avec Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est musicien congolais qui n'est plus à présenter. On revient à l'actualité de cette semaine. La précarité sécuritaire dans l'est de la RDC et la campagne du Rwanda impunie restent la priorité pour le gouvernement souminois, a indiqué la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner jeudi 27 juin à Kinshasa devant les diplomates accrédités en RDC et les représentants des organisations internationales. La nouvelle ministre congolaise des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à aller au-delà des simples messages de condamnation de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. À la veille du renouvellement du mandat de la MONUSCO et de celui du groupe d'experts des Nations Unies, la RDC attend plus que des condamnations verbales de la part des membres des Nations Unies en général et des membres du Conseil de sécurité en particulier, tous signataires des conventions internationales qui sont quotidiennement bafouées sur notre territoire par le Rwanda. Thérèse Kayikwamba a condamné les tueries qui se poursuivent dans l'est de la RDC où le Rwanda est responsable des violations graves et massives du droit international général, du droit international humanitaire et des droits humains. Gaël Kibungu, vous êtes journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Vous avez souhaité nous parler de la rencontre entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et les corps diplomatiques jeudi à Kinshasa avec un appel pressant à des sanctions contre le Rwanda. On vous écoute.
Voilà. D'abord, j'aimerais revenir sur le fait que l'heure n'est plus au silence, vous l'avez bien compris, en République démocratique du Congo, mais plutôt aux condamnations. Parce que aux dénonciations et qui doivent aboutir à des condamnations, c'est ce que le message que nous adressons en tout cas à tous les partenaires, à tous les institutions internationales. Le fait que le président, je crois, parcourt un peu la planète, on lui reproche d'être tout le temps dans les avions, mais je crois que ça remet très sérieusement la République démocratique du Congo au centre de tous les regards, vraiment en très bonne place sur la scène internationale. On voit également que viennent à plus ici vers Kinshasa. Évidemment, il y a plusieurs raisons à cela. mais ça nous donne quand même une posture assez importante pour nous faire entendre. Il ne faudra pas s'arrêter là, bien entendu. Il faut évoluer en plaçant des fonctionnaires internationaux à tous les niveaux, en faisant des plaidoyers clairs. Et ça, je crois que le chef de l'État, dans sa posture de président de la République, porte déjà ce côté diplomatique. En tout cas, il le fait bien. Et je crois que le gouvernement qui vient d'être mis en place a compris, puisque son programme s'articule notamment autour de ce renforcement diplomatique qui devrait servir justement à atteindre cet objectif, parce que la guerre que nous connaissons en République démocratique du Congo, c'est pas seulement sur le plan militaire. Aujourd'hui, nous avons actionné ces trois pans, justement, le plan politique, le plan militaire lui-même et le plan diplomatique qui devrait jouer beaucoup dans ce changement de position de la part des États puissants, de la part des États qui peuvent agir et notamment actionner les leviers de sanctions à l'encontre du Rwanda. Donc je crois que la rencontre de ce jeudi entre la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie va un peu dans ce sens-là. C'est sa première grande sortie médiatique. Elle a choisi de le faire en ayant un face-à-face avec tous les représentants de la diplomatie, ici tout le corps diplomatique et les organisations internationales basées en République démocratique du Congo. Et c'était l'occasion bien choisie justement pour le rappeler ce message fort, au-delà des civilités, au-delà des relations de coopération, tout simplement, qui doivent d'ailleurs se passer dans un respect mutuel. On aspire à un développement, à une économie croissante, et il faut que cela se passe dans un respect tout à fait mutuel et dans une logique gagnant-gagnant, comme elle-même l'a dit. Il y a cette question sécuritaire qui est vraiment une épine dans notre pied, et on doit pouvoir arriver à bout. Donc le message principal aujourd'hui de cette diplomatie tourne autour de cette question cruciale. On a vu cette rencontre s'est passée concomitamment avec la descente de la première ministre dans l'Est. Je crois que ce front a été bien choisi pour faire entendre ce message.
Madame Gaëlle,
Oui,
Madame Gaëlle Kibungu, vous ne pensez pas que c'est la même rhétorique avec les mêmes mots? On sait que ces discours n'ont jamais aidé, n'est-ce pas, à prendre des sanctions contre le Rwanda. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci sera la bonne?
Guy Mathieu, on se lassera pas de le faire. On voit qu'on a déjà évolué. Le langage, je crois que mon co-débatteur l'a dit ici, le langage du côté européen, du côté nation, du monde, un peu les décideurs, se met à changer. Même s'il y a encore des récalcitrants qui se retrouvent dans ce trafic criminel, il y a des nations qui pensent aujourd'hui que le Rwanda devrait être condamné. Ils le disent ouvertement. Et je pense que ça nous a fait évoluer quand même de beaucoup de pas, parce qu'il y a encore quelques temps, on parlait que du M23 comme principal acteur, alors que ce n'est qu'un groupe fantôme qui est tiré par ou soutenu par le Rwanda, et ça c'est clair. Aujourd'hui, le nom de Paul Kagame, le nom du Rwanda sont cités clairement dans les crimes qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, on ne dira pas que rien n'a changé, mais je crois que au-delà de ça, il faut aller plus loin, et ça, on le reconnaît, le gouvernement le reconnaît, la ministre, la nouvelle personne de la diplomatie l'a dit, ils ne vont pas cesser d'actionner de nouveaux leviers. En septembre prochain, par exemple, il y a la réunion du Conseil de sécurité, il y a la rencontre des Nations Unies, donc je pense que tout cela est en vue de cette rencontre. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va changer du jour au lendemain. Les diplomates ont des mécanismes pour faire évoluer les choses, le système des Nations Unies aussi. C'est une question aussi de consensus, il faut savoir faire le lobbying qu'il faut, mais déjà en passant le message à qui devrait l'entendre, je crois que c'est une bonne façon de le faire.
Merci.
Les choses ne changeront pas du jour au lendemain, mais on pourra arriver à la solution.
Merci, on me signale que M. Ignace Moupira est là. Ignace Moupira, vous êtes là?
Oui, bonjour Guy Mathé, bonjour, je salue les co-débatteurs.
Bonjour, vous êtes acteur de la société civile du Sud Kivu et analyste politique. Même si ce discours ne nous a pas aidé jusque-là, n'est-ce pas, à obtenir des sanctions contre le Rwanda, à votre avis, quel pourrait être son mérite?
Oui, le mérite de ce discours, justement, c'est de dénoncer. Nous appliquons la diplomatie du président de la République jusqu'à disons le ministre des Affaires étrangères, celui qui était là et madame qui vient d'arriver. Nous appliquons ce que moi je pourrais appeler la diplomatie du grand bruit. On a déjà suffisamment parlé, le Conseil de sécurité Il y en a qui nous écoutent quand même. Le message porte, et comme je disais, nous pratiquons la diplomatie de grand bruit, tandis que le voisin pratique la diplomatie à pas feutré, il pratique la diplomatie de l'hypocrisie, il pratique la diplomatie, et il a des amis, nous avons également des amis dans ce qu'on appelle la communauté internationale. Notre problème est connu au Conseil de sécurité. Je crois qu'il faut pas, il faut pas rester dans la même rhétorique, hein. Il faut changer de stratégie. Le message est passé, mais nous devons travailler de manière à enclencher beaucoup plus d'amis. Et peut-être que les gens oublient que le Rwanda est quand même actif sur le plan militaire à travers le continent. Le Rwanda est pourvoyeur de troupes en Centrafrique, au Mozambique, au Tchad, etc. Je rappelle quand même que au Parlement britannique, il y a une commission permanente est dénommée Commission Grand Lac et Prévention du Génocide. Et cette commission existe depuis que le génocide a été perpétré au Rwanda. Et donc, le Rwanda a fait des amis et joue de l'hypocrisie, fait de la diplomatie à pas filtré, comme je dis. Nous n'allons pas nous arrêter à la diplomatie du grand bruit. Nous devons enclencher avec tous les contacts que le président de la République a fait, avec tous les contacts que le gouvernement va faire. Nous devons enclencher également des amis, des relations au niveau de la communauté internationale. Et ne pas nous arrêter. Je crois que l'essentiel, ce n'est pas qu'on cite mille fois le nom de Kagame. L'essentiel, c'est que nous puissions sentir que nous avançons et que le soutien qu'il apporte visiblement et clairement au M23 et à tous les autres semeurs de troubles dans l'Est de la République, que ce soutien-là puisse s'arrêter. Parce que lui aussi reçoit le soutien de la communauté internationale. La France donne de l'argent au Rwanda. Dernièrement, ils leur ont donné 20 millions de dollars avec lesquels ils ont relancé leur armée, ils ont renforcé leur armée. Et donc, Kagame a aussi des amis là-bas. Nous devons essayer de faire en sorte que nous puissions aussi enclencher des relations d'amitié, des relations amicales qui puissent faire en sorte que quand nous avons des problèmes, les amis accourent au chevet de la RDC. Donc le bruit est en train de faire, le bruit est en train de porter des fruits, mais nous devons changer également de rhétorique et de stratégie.
Merci, Sadi Kaba, journaliste universitaire. Vous êtes président du Centre international des réflexions et d'études sur le Sahel, Think Tank, basé à Paris. Vous avez publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Justement, au-delà des discours, quelles autres actions pourraient avoir la capacité de faire fléchir le Rwanda, Sadi Kaba?
Non, je crois qu'il faut... Il faut faire évoluer le dossier et ne pas le considérer simplement comme une question congolaise, comme une question de la RDC seulement. C'est un problème de droit international. Et la question qu'un autre pays puisse avoir des activités sur un autre territoire, a fortiori apporter un soutien à une déstabilisation de notre territoire, est une question de droit international, est une entorse au droit international. Il faut d'abord qu'au plan africain, que les pays africains assument cela, parce que si on laisse passer ce précédent, demain, il y aura d'autres situations de déstabilisation d'un pays africain par un autre pays africain. Donc, il faut que, au plan africain et au plan international aussi, qu'on puisse considérer cette question comme une question qui ne concerne pas qu'un seul pays, mais qui concerne le respect du droit international. Et à mon avis, la deuxième chose, aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix. J'ai même entendu la France dire qu'il y a une responsabilité du Rwanda dans le soutien au M23, le groupe des experts des Nations Unies a documenté ce soutien-là. Il faut tirer les conséquences. Il ne s'agit pas de constater qu'il y a une infraction. Quand on regarde un peu ce qui restait dans le registre de la justice ou de la répression, lorsqu'on constate qu'il y a une infraction, on tire les conséquences du constat qu'on a fait. Et aujourd'hui, apparemment, beaucoup de pays ont de la peine à franchir ce pas de tirer les conséquences de ce qu'ils ont constaté. Les États-Unis ont dit à plusieurs reprises que le M23 était soutenu par le Rwanda. La France l'a dit. Mais il ne faut pas en rester au constat. Il faut tirer les conséquences. Et à mon avis, il faut faire prendre conscience à la communauté internationale qu'il ne s'agit pas simplement d'une question entre le Congo et le Rwanda, mais qu'il s'agit d'une question de respect du droit international. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, on serait exigeant envers l'Éthiopie pour lui demander de respecter le droit de la Somalie, puisque l'Éthiopie est en train de conclure un accord avec cette province du Somalie, le Somaliland, qui n'est pas en réalité un État. On demande à l'Éthiopie de respecter le droit international, ou dans d'autres conflits aussi, où on demande, on exige que le droit international soit respecté. Aussi, on veut que le droit international soit respecté, il faut qu'on obtienne qu'il soit respecté un peu partout dans le monde, à mon avis. Aujourd'hui, un des perdants de cette affaire, c'est aussi la communauté internationale qui est dans l'incapacité d'appliquer le respect des droits internationaux et de tirer, d'imposer au moins que le droit international soit respecté. À mon avis, il faut absolument attirer l'attention de la communauté internationale sur le risque de récidive qu'il y a et aussi sur le risque de crédibilité que ça pose, le fait qu'elle ne puisse pas faire respecter le droit international dans une partie du monde. Ça, c'est, à mon avis, extrêmement grave.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, le 25 août prochain, l'artiste musicien et compositeur Jano Bombenga Ewando va totaliser 90 ans d'âge. Et à cette occasion, une série de manifestations sont prévues. Nous allons donc écouter un de ses classiques intitulé Mado et on revient juste après.
Thank you.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet du manque de consensus européen sur les noms de l'envoyé spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs. Nous avons également analysé la rencontre entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et les corps diplomatiques jeudi à Kinshasa avec un appel pressant à des sanctions contre le Rwanda. Participe à cette émission, Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Ignace Mupira, il est acteur de la société civile du site Kivu et analyste politique. En ligne depuis Paris, capitale de la France, Seydi Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, le think tank basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». La première ministre Judith Suminwa a présidé mardi 25 juin à l'aéroport de Kavumu en compagnie de la chef de la MONUSCO Bintou Keïta la cérémonie de la fermeture du bureau de la mission onusienne à Bukavu, centre névralgique de ses opérations au sud Kivu. Cette fermeture est la suite logique du processus du désengagement de la mission de cette province, processus déclenché depuis janvier 2024. Au cours de cette cérémonie, la MONUSCO a fait don d'actifs d'une valeur de 10 millions de dollars américains aux autorités de la RDC et à plusieurs partenaires congolais. La mission a également transféré aux forces armées de la RDC et FARDC un héliport nouvellement construit et une base à Rutemba, près d'Uvira, d'une valeur de 1,5 million de dollars. La cérémonie de remise de ces dons a eu lieu à Kavumu, à 32 km de Bukavu. Seydi Kaba, vous avez opté pour le sujet sur la fermeture du bureau de la MONUSCO à Bukavu, au sud Kivu. On vous écoute.
Non, je pense que, compte tenu de toutes les revendications qui ont été portées par le pouvoir congolais, à savoir le retrait de la MONUSCO compte tenu de la faiblesse des résultats par rapport aux défis sécuritaires que le pays a connus. Pendant très longtemps, les Nations Unies sont restées presque sourdes à cette exigence de la RDC de commencer à entamer son retrait du territoire congolais. Et les Nations Unies ont fait du dilatoire, ont présenté leur présence comme étant absolument nécessaire et même indispensable. Le fait qu'ils commencent, ils ferment ce bureau important, leur représentation à Bukavu, à mon avis, est présage d'une volonté d'aller beaucoup plus loin et de prendre en compte les revendications de la RDC, qui sont celles de se retirer progressivement du territoire congolais pour permettre à la République démocratique du Congo d'assumer sa défense, puisque la valeur ajoutée de la présence de la MONUSCO est très relative. On vient de le voir avec les actions du 1-23. Si la MONUSCO avait été d'une grande efficacité, elle aurait participé au moins au respect du droit international en soutenant plus massivement qu'elle ne le fait aujourd'hui les FARDC. Ce qu'elle ne fait pas, et pour moi, je crois que le fait que cette cérémonie se tienne en présence de la chef de la mission de la MONUSCO, en présence de la première ministre, plus son importance pour la RDC sur le plan de la symbolique, mais aussi sur le plan du nouvel agenda qui va se construire après le retrait progressif de la MONUSCO de la RDC, comme on a pu le voir au Mali, où le Mali a exigé le départ de la MINUSMA et la MINUSMA est partie, et le Mali ne s'est pas effondré. Au contraire, le Mali a tissé d'autres partenariats qui lui ont été d'une grande utilité. C'est pour ça que, partant du scénario malien, je crois qu'en République démocratique du Congo aussi, il est important qu'un agenda se mette en place du départ de la MONUSCO et que le pays puisse avoir un schéma de défense nationale complètement assumée et complètement formée par lui et par lui tout seul.
Et que répondez-vous à ceux qui ont toujours pensé que la présence de la MONUSCO dans cette province du Sud Kivu, comme partout en RDC, constitue une dissuasion, n'est-ce pas, par rapport aux éventuelles menaces sécuritaires internes et externes au pays? Est-ce qu'on peut parler en termes de catalyseur quand on parle de la MONUSCO au Sédi Kaba?
Non, la MONUSCO n'est pas absolument d'une grande dissuasion. Sinon, au regard des moyens qui sont ceux de la MONUSCO et ceux des Nations Unies, face au M23, elle peut faire de la résistance. La valeur ajoutée, la MONUSCO, vous savez, les forces des Nations Unies, c'est toujours la question du mandat. Elles se disent que notre mandat, c'est de défendre la population, et c'est qu'elles ne font pas souvent. Elles disent aussi que notre mandat, c'est simplement de défendre les civils, c'est qu'elles ne font pas souvent. La valeur ajoutée de la MONUSCO par rapport aux moyens qu'elle a n'est pas considérable. À mon avis, vous savez, à un moment, quand c'était la MONUC, les gens disaient MONUC pour faire un peu dans la caricature, pour montrer un peu une sorte d'impuissance que les forces des Nations Unies ont. Moi, je ne pense pas, et le Mali vient de faire la démonstration, que le départ des troupes des Nations Unies d'un pays vont entraîner son effondrement sécuritaire. À mon avis, ça pourrait même être une opportunité pour que le pays s'organise mieux, pour que le pays puisse avoir être seul responsable de sa défense, avoir une autonomie de décision, sans avoir à faire de la coordination avec des forces qui, souvent, n'apportent pas une vraie valeur ajoutée à la défense nationale. Je pense que, pour moi, en tout cas, par expérience, au regard de ce qui s'est passé dans les autres pays, le départ de la MONUSCO ne changerait pas considérablement sur le plan sécuritaire en RDC.
Merci Ignace Moupira. S'il vous est demandé de faire une sorte de comparaison entre les moments où la MONUSCO était arrivée au sud Kivu il y a de cela 22 ans, donc en 2002, et aujourd'hui en 2024, au moment où elle est en train de quitter cette province, que diriez-vous?
Merci, je partage le point de vue de Sidi Kaba. La MONUSCO a fait son temps. Et je crois que ceux qui ont été surpris par la décision du gouvernement, c'était principalement les gens de la MONUSCO. Parce que la population, elle, avait déjà remarqué les limites de la MONUSCO. Lorsque la MONUSCO est venue, disons, après une résolution des Nations Unies en 1999, c'était une mission d'observation pour faire appliquer le cessez-le-feu de Lusaka. À ce moment-là, le pays était divisé, les rébellions contrôlaient 60% du territoire national. Et la MONUSCO a participé à la réunification du pays, la MONUSCO a participé à faciliter tout ce qui est comme dialogue, la MONUSCO a participé à la transition, à la mise en place des institutions de l'État. À Kinshasa, il y avait le gouvernement, mais il y avait le comité de suivi de la transition, qui était piloté par le représentant spécial des gens des Nations Unies à l'époque. Et donc, la MONUSCO a fait son temps. Il était temps qu'elle puisse partir, parce que là, je peux dire qu'elle dormait sous ses lauriers. Hein. Et je crois qu'elle endormait aussi le gouvernement. Je pense que notre gouvernement pensait que la MONUSCO pouvait remplacer les troupes nationales. Maintenant que la MONUSCO est partie, je crois que le gouvernement doit prendre toutes ses responsabilités et comprendre que la seule personne qui a la charge de sécuriser le territoire national, de faire respecter l'intangibilité de nos frontières, c'est le gouvernement. La MONUSCO a vécu, vive la MONUSCO, nous qui avons vécu cette période où le Rwanda a occupé notre territoire pendant 5 ans, on a remercié la MONUSCO qui a fait son travail. Aujourd'hui, elle peut partir, le gouvernement n'a qu'à prendre ses responsabilités, le départ a été ordonné, toutes les parties ont respecté leurs engagements, la MONUSCO, même le gouvernement a respecté ses engagements. Il reste le Nord Kivu qui est encore en proie à cette insécurité, mais progressivement il faut que la MONUSCO s'en aille. Elle a bien fait, elle a fait un bon travail pendant un temps, elle peut, les Nations Unies peuvent déployer ses troupes ailleurs.
Merci Madame Gaëlle Kibungu. Au-delà de toutes les critiques formulées à l'endroit de la MONUSCO, qu'est-ce qui peut être, à votre avis, considéré comme le point fort de cette mission?
Bon, écoutez, comme on dit, au départ, la MONUSCO avait emmené un certain espoir quand même de pouvoir soutenir la RDC dans cette lutte contre les groupes armés, les différents groupes armés, et surtout la protection des civils. Mais comme on le dit, cette mission de dissuasion, de protection s'est un peu effritée, parce que depuis des années, il y a eu quand même une succession de dénonciations, que ce soit dans le trafic illicite des minerais pouvait ou pas me dénoncer, en tout cas que ce soit dans la violation des droits divers. Il y a beaucoup d'abus par rapport à cette présence, peut-être, je veux dire, des faits isolés peut-être, mais qui ont quand même noirci cette mission onusienne, qui nous a pourtant aidé au début, mais qui au fil des ans ne s'avère plus utile, je pourrais le dire ainsi, parce que au regard de tout ce qui se passe comme violation claire de droit international, de droit humanitaire, on aurait pu s'attendre à plus de défensifs sur le terrain, mais là, il ne se passe rien. On s'est habitué à une présence familière qui ne nous apporte pas grand-chose. Les derniers mois, on a parlé de la force de frappe des SARDC assistée par les Ouazalendo. Où est la place de la MONUSCO dans ce combat? Parce que tout s'est intensifié, on a eu encore davantage de morts, alors que la MONUSCO devrait pouvoir nous arriver à surmonter tout ça. Donc aujourd'hui, je crois qu'après avoir examiné toutes ces questions, le gouvernement a pris une résolution dure, peut-être, qui fait peur, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais une décision qui est responsable. Et je crois que, justement, après avoir pris cette décision, le gouvernement va prendre réellement ses responsabilités. Je vais donner un petit adage peut-être assez qui ne donne pas forcément ce sens-là, mais c'est un peu comme si on se disait on ne peut pas retirer la mamelle à un enfant, sinon on sera jamais on devrait retirer la mamelle à un enfant pour savoir si vraiment il saura croquer les os, en fait. Il faut laisser les SARDC prendre leurs responsabilités. Nous sommes dans un processus où on est en train de réformer l'armée. Ça, c'est un fait. Il y a encore beaucoup de problèmes, mais c'est une armée qui va se remettre debout et qui doit se remettre debout. On doit réformer tout ce système de défense et de sécurité pour faire face justement à tous les abus. Aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a cette question des M24, mais on a toujours eu des problèmes sécuritaires dans une certaine partie du pays et on devrait s'armer utilement pour les guerres à venir. On ne doit pas se leurrer, on se prépare tous les jours à des guerres et ce n'est pas fini tant qu'on a des stratégies qui ont une durée illimitée. Donc, je crois que c'est vrai. Un exercice de responsabilité pour le gouvernement, parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons une certaine pression, qu'on se dise on doit garder la MONUSCO à tout prix alors qu'il n'y a pas de résultat probant. Il ne faudrait pas qu'on retombe dans ce piège de tireur de ficelle. On l'a vu à chaque fois qu'on devait modifier des mandats de la MONUSCO ou parler de justement de ce retrait. Et il y a souvent des conflits comme ça qui s'intensifient dans certaines parties de la République. Et il y aurait-il des tireurs de ficelle? Ça, on interpelle fortement cette mission onusienne et les observateurs pour que ça ne soit pas rien de pression. Il faut que la République démocratique du Congo, à un moment donné, prenne ses responsabilités en main parce que là, on ne doit pas tâtonner en fait face à toutes ces morts et à cette recrudescence de l'insécurité dans la partie est du pays. Donc, moi, je crois que c'est une responsabilité donnant la chance aux SARDC qui sont nos portes de la République démocratique du Congo de prendre en main leurs responsabilités, et je crois que ça va nous emmener dans la bonne voie justement de cette réforme du système de sécurité et de défense. L'heure n'est plus à vraiment à s'endormir sur nos lauriers et à faire d'une présence étrangère sur notre sol un ami quotidien qu'on croit insurmontable. Non, on a besoin de temps en temps d'avoir des partenaires, on en a encore sur le plan sécuritaire, mais je crois que on doit s'appuyer d'abord sur l'armée de la RDC.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Attention les enfants, danger de Michel Sardou et revient juste après.
Ma chère mamie, je passe de bonnes vacances. Il fait très beau et la nouvelle fiancée de papa me plaît beaucoup. Elle est très jolie et pas tellement plus vieille que moi. Depuis qu'elle est à la maison, papa n'a plus un seul cheveu blanc.
Oh, attention les enfants, danger. Oh, il y a des papas paumés. Il suffit d'un courant d'air, de sein sous un pullover, et tout peut arriver. Promis des mensonges immenses. Vous en avez des exemplaires, mais au pays des Français, signaux, des messages. Même si c'est un ouragan, cyclone autour d'un divan, c'est quand même un naufrage. Attention les enfants, courage.
Cher Manu, je ne t'enverrai pas cette lettre. Tu viendras te la porter moi-même. La jolie fiancée de papa est partie ce matin avec toutes ses valises. Il a décidé que les vacances étaient finies. Nous rentrerons tous ce soir. J'ai l'impression qu'il est content. Il recommence à ne plus se raser.
Oh, attention les enfants, danger. Oh, il y a des papas paumés.
C'était le célèbre artiste et musicien français Michel Sardou qui a fêté ses 77 ans d'âge en janvier dernier. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet des Kinshasa. Ignace Moupira, acteur de la société civile du Sud Kivu et analyste politique. En ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank, basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Isaac Tshilumbay, a répondu mardi 25 juin à la polémique autour d'un ordre d'émission pléthorique signé par Vital Kamerhe. Il fait remarquer qu'il n'y a pas eu abus des finances publiques, il n'y a pas eu extravagance, encore moins d'exagération. Jean-Claude Isaac Tshilumbay a fait une mise au point sur la mission que va conduire son président Vital Kamerhe à Montréal, au Canada, pour participer à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone. En arrivant aux fonctions, nous avons trouvé cette mission déjà activée. La correspondance qui invite les parlements congolais date du 1er janvier 2023. Cette correspondance avait été adressée au président Mbosso. Lorsque nous sommes arrivés, les ordres d'émission étaient déjà signés. Il n'y a pas eu exagération, a argumenté Jean-Claude Isaac Tshilumbay. Il souligne qu'il s'agit de la fusion des trois différents ordres d'émission avec des personnes différentes pour des forums différents qui vont se tenir en marge de cette session qui va s'étaler sur 12 jours. Ignace Moupira, vous avez souhaité nous parler de la polémique autour d'un ordre d'émission pléthorique signé par Vital Kamerhe pour une émission au Canada. On vous écoute.
Oui, merci Guimaté. Cette polémique n'est pas un fait divers. C'est pas comme on dit dans la presse, un arclé sur un chien écrasé. Non. Cette polémique, elle pouvait s'arrêter si on s'arrêtait aux explications données par le premier vice-président. Mais moi, je ne suis pas contradicteur du premier vice-président. Quand il dit que le rôle de mission était déjà signé en 2023, il n'y avait pas encore des états caméras, il n'y avait pas toutes les 22 personnes. Le bureau a été constitué de la manière que nous connaissons. Et aux dates connues. L'invitation pour aller représenter la RDC à la conférence parlementaire de l'Organisation internationale de la francophonie, elle est opportune, tout à fait, c'est une mission opportune. Et parce que nous sommes membres à part entière de l'OIF, le président Vital Kamerhe, en 2007, quand il avait occupé le même siège, avait inauguré ce qu'il a appelé lui-même la diplomatie parlementaire. Il est donc important que cette diplomatie parlementaire puisse appuyer la diplomatie du chef de l'État et du gouvernement, afin de consolider la place de la RDC dans le Conseil des Nations et au sein de l'OIF. Au moment où le pays, effectivement, est agressé par le Rwanda et ses supplétifs de M23, les RDF, l'Ouganda, etc., etc. Cependant, fallait-il 22 personnes dont la moitié ne sont pas des députés pour faire partie de cette délégation-là. Pour moi, cela traduit une absence de rigueur dans la gestion des ressources humaines, une absence de rigueur dans la gestion des ressources financières, et cela dissimule mal un relent de gabegie financière. Nous sommes habitués toutes les semaines à des informations qui viennent de l'IGF ou même de la presse, qui parlent de détournement en milliers de dollars à Kinshasa, etc. Aujourd'hui, il y a un ministre qui est rentré en prison pour ce genre de choses. Donc cela nous renvoie, nos populations, nous renvoie une image assez écornée qui nous fait croire que les gens sont à Kinshasa pour s'amuser. On n'a pas besoin de 22 personnes pour aller occuper deux sièges, comme je suis dit que... Bon, le premier ministre a parlé de trois missions combinées, même comme cela. Des députés peuvent faire partie de la mission, et pas tous les chargés des missions, pas tous les... etc. Vous savez, les institutions à Kinshasa nous ont habitués, malheureusement, à voir que les postes deviennent plus des butins de guerre que des charges d'État. Alors, l'impression que cela donne, c'est ça. Ici, je ne fais pas le procès de l'Assemblée nationale, je risque de faire le procès plutôt de la gouvernance dans son ensemble. Parce qu'on assiste à ce genre de problèmes, à ce genre de situations, de la présidence jusqu'aux institutions installées à Kinshasa. Et vous savez, nous, nous sommes en province, Kinshasa consomme 85% des ressources nationales, alors que Kinshasa ne produit que 15%. Et ces 85% sont consommés par les institutions politiques. On a parlé de la réduction des trains de vie. Ce n'est pas en ce moment où nous sommes en guerre que les gens doivent s'amuser pour faire des emplettes, pour faire des courses à Montréal ou au Canada, etc., avec l'argent de l'État. Donc il y avait moyen de réduire cette nécessité de bien servir de leçon. De réduire la composition de cette délégation, de charcuter, d'enlever certaines personnes pour montrer à la population que nous sommes en train d'aller vers une gestion qui va nous produire un bilan potable et pas un bilan mitigé comme on l'a observé pendant le premier quinquennat du président de la République. Je crois qu'il faut aider le pays, il faut aider l'État, il faut nous habituer à des stratégies de rigueur et pas nous donner l'impression que les amusements continuent.
Merci. Gaël Kibungu, vous êtes là ?
Je suis là.
Voilà. Et quelle est votre lecture par rapport à cette polémique ?
Voilà, mon co-débatteur après ce que tu dis. C'est quand même dommage qu'on puisse revenir sur ce genre de questions où on constate vraiment que la boulimie financière n'est pas passée. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants. On va s'arrêter à la source officielle. Mais d'un point de vue critique, il faudrait arrêter certaines pratiques pour pouvoir avancer. Nous avons des priorités, la sécurité en bonne partie, nous avons les questions socio-économiques, ce n'est pas le moment de disperser l'argent, de vider les caisses de la République. Voilà, je crois que c'est vraiment quelque chose qui ramène les politiques à beaucoup de responsabilités. On l'avait dit dans votre émission il y a quelques mois encore, les députés nationaux qui ont été élus ne sont pas élus pour leur ventre, pour leur propre poste, ce sont des représentants du peuple. Et en tant que tel, ils devraient voir ce qu'il y a de plus important. C'est d'abord l'intérêt suprême de cette population qui aujourd'hui vit dans un état de précarité extrême. On ne peut pas s'amuser à vider les caisses de l'État pour aller remplir les avions ou les conférences en international s'il n'y a pas de bien fondé démontré. Même si c'était des ordres de mission signés depuis, est-ce qu'aujourd'hui on peut nous expliquer quel est le bien fondé que nous allons en tirer? C'est ça aussi la question. Généralement, on se rend dans des conférences, on part en grande délégation, on n'emmène presque rien dans nos mallettes, on va en observateur, etc. Juste pour participer, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça pourrait être le cas. Il faut pouvoir analyser cette croix, de pouvoir comprendre, puisque tous les politiciens ont quand même un devoir de redevabilité, on devrait comprendre ce que vont apporter ces conférences, même s'il est important aujourd'hui qu'on soit représenté de manière ou d'une autre en international, à différentes rencontres, parce que c'est des occasions de lobbying aussi pour les questions sécuritaires ou d'autres de développement. Mais qu'est-ce qu'on emmène dans nos mallettes et qu'est-ce qu'on va en rapporter? Et comme on l'a dit, il ne faudrait pas que ce soit une occasion pour aller sillonner dans les rues de Montréal à ne rien faire, que ce soit une occasion pour que les gens se payent des vacances, alors que la majorité de la population croupit dans la misère. Là, nous allons amorcer les étapes de l'année scolaire. Pour les parents, c'est très, très dur. Est-ce que c'est le moment pendant lequel le gouvernement pourrait autoriser ce genre de décaissement? Je crois que là, il y a une question de rigueur et de la part des institutions parlementaires et de la part du gouvernement qui devrait regarder un peu plus à ses dépenses, engager ci et là pour voir si c'est vraiment dans l'intérêt du peuple. On ne doit pas continuer dans cette légèreté financière, dans cette légèreté qui ferait que on doit aller partout pour rien du tout, pour pas grand-chose. Pourquoi une si grande délégation? Moi, je crois qu'il faudrait, s'il y a obligation d'être représenté quelque part, il faudrait voir aussi le coût que ça rapporte. Il ne faudrait pas que ça pèse pour rien. pour pas grand-chose. Ça, c'est vraiment quelque chose de quand même... La population est choquée par rapport à ça et on devrait en tenir compte parce que, justement, il y a ce devoir de redevabilité. Donc, c'est vraiment très important. C'est un rappel à la responsabilité et du côté des élus nationaux et du côté des gouvernants, de la classe politique en général. Et je crois que c'est une question qui devrait être posée.
Merci. Sidi Kaba, à votre avis, peut-on parler d'une simple polémique ou d'un véritable scandale quand vous suivez ces dossiers?
Non, c'est pas. Alors, c'est un scandale et ça doit faire réfléchir sur la gouvernance. C'est pas un fait divers banal parce que c'est pas la première fois que ça se produit. Moi, j'ai le souvenir d'une autre occasion d'un conseil général de l'UNESCO il y a quelques années, où le Congo était presque venu avec une délégation de 80 personnes. Il y avait même les assistants, les secrétaires qui étaient venus ici à Paris au Conseil général il y a quelques années, je ne me souviens pas de la date exacte. Donc si cette sorte de pratique s'installe, c'est la preuve qu'il n'y a pas beaucoup de considération dans la gestion de l'argent public. Il faut, dans le contexte aujourd'hui, de rareté de l'argent public dans nos pays, qu'au-delà du Congo, bien sûr, qu'on puisse gérer avec beaucoup d'efficacité. Quand on n'a pas besoin de quelqu'un dans une mission, quand il n'y a pas de justification, sa présence n'est pas justifiée, il ne faut pas qu'on lui donne l'occasion de voyager comme si c'était des vacances payées par la République. Si vous allez à Montréal ou si vous allez à Québec où se tient cette rencontre et que vous n'allez pas prendre la parole, vous n'allez pas contribuer au débat, votre présence n'a aucune justification, je ne vois pas pourquoi la République va vous payer un billet d'avion, va vous payer l'hôtel, va vous verser des périodes. Et il ne s'agit pas, il faut qu'on évite vraiment de considérer que les grandes rencontres qui se font dans les capitales lointaines sont une occasion de voyager simplement aux frais de la République. À mon avis, il faut qu'on sorte de cette culture, d'autant que on ne peut pas demander aux Congolais de serrer la ceinture si l'État lui-même ne se montre pas vertueux dans la gestion des biens publics. Il faut commencer d'abord par supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire, tout le faire totalement inutile avant d'exiger des citoyens qu'ils fassent des sacrifices, surtout dans un pays en guerre, dans un pays agressé, qui a besoin de toutes ses ressources pour faire face à l'agression extérieure, pour faire face aux dépenses qui sont des dépenses indispensables. Donc, je pense qu'il faut prendre prétexte sur ce qui peut paraître comme un fait divers pour construire vraiment une gouvernance qui soit vertueuse, que l'exemple vienne des députés nationaux, vienne du Parlement, vienne du gouvernement, vienne de toute la haute administration pour que les citoyens puissent adhérer au mode de gouvernance qu'il y a dans le pays. Non, je pense que vraiment, il faut que nos dirigeants se ressaisissent, qu'on passe preuve d'une gouvernance vertueuse et que les missions ne soient pas des occasions pour aller se balader, pour faire de la villégiature ou faire du shopping dans les grandes capitales internationales. Nos pays ont besoin de leurs ressources pour investir dans l'éducation, dans l'accès à l'eau potable, dans l'accès, dans les soins primaires, dans les soins liés à la maternité, aux enfants, etc. On n'a pas besoin de faire tout ce gaspillage-là, à mon avis. Et ce qui est un peu regrettable, c'est la posture du déni. En disant que oui, on a combiné trois missions en une seule, au lieu de reconnaître que, bon, il y a eu quand même des erreurs et que la prochaine fois, ça ne va pas se répéter. Si on se met dans la posture du déni en essayant de justifier ce qui n'est pas justifiable, à mon avis, c'est une fuite en avant. Il faut prendre conscience que quelque chose s'est passé et s'engager à ne pas recommencer.
Merci, c'est par là que nous finissons cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Ignace Boupira, Sidi Kaba et Madame Gaëlle Kibungu. Merci aussi à Pierre Diassinois qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec un Toi Bwanga de Dino Vangu, c'est virtuose de la guitare, chanson sortie en 1984 dans l'orchestre Afrique internationale de Rochère au Taboulé. On se retrouve le samedi prochain.
Mokolo na benga ki in your freedom.